Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 13. Un dénouement. Tant que le bruit des roues sur le pavé sonore se fit entendre dans la rue, Durand resta devant la porte. Lorsque ce bruit se fut complètement perdu dans l'éloignement, le pauvre marchand, aux trois quarts abruti par les événements exorbitants qui venaient de se succéder, prit le parti de rentrer dans la maison et de remonter chez lui. Sa femme l'attendait en proie aux plus dévorantes fièvres de la curiosité et de l'inquiétude. Personne cette nuit-là ne ferma l'œil dans la maison Durand. Les conjectures des deux époux se formulèrent de 100 façons différentes à propos de cette foudroyante disgrâce. Qu'allait-il en résulter? L'emprisonnement des deux grandes dames serait-il long? Dans la partie entamée entre le cardinal et la comtesse Douairière, Dubois serait-il vainqueur ou vaincu? Enfin, la catastrophe en question changerait-elle les dispositions faites en faveur de l'échevin et du chevalier de Saint-Michel? Tout ceci était bien grave, et il y avait de quoi donner un souci cuisant à de plus fortes têtes que celles de M. et Mme Durand. La comtesse n'avait rien dit en partant au sujet de l'échevinage. Il est vrai que la présence de l'exempt Lehoux était un obstacle à toute confidence. Enfin, dans la journée du lendemain, l'intendant reviendrait, et il fournirait sans aucun doute toutes les lumières désirables relativement à cet événement déplorable et à ses conséquences. Mais, en attendant que l'on sût pertinemment à quoi s'en tenir, on déblatéra contre le despotisme avec une ardeur très philosophique et très libérale. Ce fut un duo de malédictions contre le pouvoir qui se laissait ensorceler par les ennemis de la vertu. « Sais-tu, Durand ?» dit tout à coup l'honorable moitié du propriétaire. « Sais-tu que nous sommes créanciers de cette chère comtesse, pour une bien grosse somme ?»« Assez ronde, en effet, » répliqua Durand. « Ouvre donc un peu tes livres, et vois combien cela peut se monter. »« Je n'ai pas besoin d'ouvrir mes livres pour cela. Je sais le chiffre, de reste. »« Et quel est-il ? » ?»« Il dépasse 150 000 livres. »«
Tant que cela ?»«
Mon Dieu, oui. »« Et tu ne te sens pas quelque peu inquiet ?»
Inquiet? Pourquoi?
Dame! En admettant que les choses tournent au plus mal, que risquons-nous? Nous sommes nantis.
Ah, oui, les crains.
Oh, sans cela, je tremblerais fort, je l'avoue.
Mais es-tu bien sûr?
Sûr de quoi?
De la valeur de ces pierreries?
Parbleu! Me prends-tu pour un enfant?
Non, mais...
Il n'y a pas de mais. Les diamants valent 500 000 livres. C'est, je crois, une suffisante garantie pour 150 000 qui sont dus.
Certes.
Il ne faut donc point, comme tu vois, nous mettre Martel en tête.
Cependant, si la comtesse reste en prison, et si monsieur le comte, son fils, refuse de nous solder,
c'est peu probable.
Soit. J'admets cependant ce cas. Que ferais-tu?
Nous nous payerions par nos propres mains.
De quelle façon?
En faisant estimer et vendre les crins. Nous garderions notre somme, avec les intérêts bien entendu, et nous remettrions le boni de la vente à qui de droit.
Tu as raison. Il est bien heureux que cet écrin soit dans notre caisse.
Et je te garantis que nous ne le rendrons qu'à bonne enseigne. Mais je te réponds que sitôt monsieur le comte Scipion, arrivé ici avec la famille du noble fiancé de sa sœur, Rivra viendra nous payer et nous redemander les diamants.
Cela vaudrait encore mieux.
Ah, sans contredit.
Cette conversation, telle que nous venons de la rapporter, se renouvela 10 fois, sans aucune variante, entre Durand et sa femme, pendant toute la matinée, jusqu'à l'heure présumable de l'arrivée de Rivra. Cette heure s'écoula, et Rivra ne parut point. Une heure succéda celle-là, puis une autre, puis encore une autre, et de l'intendant, nulle nouvelle. La nuit suivante n'apporta aucun changement à la situation. Monsieur et Madame Durand, au comble de l'inquiétude, recommençaient leurs conjectures. « Quelle chose bizarre !» disait l'un.
« Quelle chose étrange !» appuyait l'autre.
« Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? C'est inouï, inexplicable, incompréhensible. Pour ma part, je n'en reviens pas.
Moi, pour la mienne, je m'y perds.
Est-ce un accident? Un contretemps? Qui peut savoir? La voiture qui ramenait Riva s'est peut-être brisée en route. Peut-être la comtesse a-t-elle voulu conserver son intendant avec elle jusqu'à Lyon. Peut-être même l'exemple aura-t-il gardé ce pauvre Riva prisonnier? C'est impossible. Et pourquoi? Il n'y avait pas d'ordre relatif à Riva dans la lettre de cachet. En es-tu sûr? Puisque je l'ai entendu lire jusqu'à la fin. Bah, un exemple, ça prend sur soi, surtout quand il s'agit de montrer du zèle. Puis le mari et la femme recommençaient à s'écrier. Quelle chose bizarre! Quelle chose étrange! Etc., etc. Cependant, au second étage, les domestiques ne se sentaient guère moins inquiets que les maîtres au premier. Ils descendaient continuellement chez Durand. C'était Durand qui les avait placés chez la comtesse de Saint-Anille. C'était à Durand qu'ils s'adressaient. « Soyez calmes, leur dit le marchand. Vous ne perdrez rien. On a de quoi remplir vos gages. » Ces quelques mots rassurèrent la valetaille. Mais Madame Durand trouva cette parole fort imprudente et elle en réprimanda son mari. Cette seconde journée se passa tout entière sans rien amener de nouveau. Enfin, sur le tard, on entendit frapper si vigoureusement à la porte de la maison que Durand tressaillit dans son cabinet. « Si c'était Riva ! » s'écria-t-il. Il eut un moment d'espoir et de joie bien vive, car un instant après ce coup de marteau, il entendit sonner à la porte de son appartement. « Plus de doute, pensa-t-il, c'est Riva !» Elle se mit en mesure de se jeter dans ses bras au moment où il paraîtrait. Ce n'était pas Riva, cependant. C'était le portier, porteur d'une lettre qui venait de lui être remise par un gagne-denier. C'est ainsi qu'on appelait les commissionnaires à cette époque. Cette lettre était sous une large enveloppe carrée, scellée de 3 cachets armoriés. Durand reconnut aussitôt les 3 ânes d'or au chef de gueule de la comtesse de Saint-Anille. « Des nouvelles de la comtesse » s'écria-t-il. « Je le savais bien, une si grande dame !» Elle rompit les 3 cachets. Mais à peine avait-il jeté un premier regard sur l'épître que sa face rubiconde se déclara. Ses yeux devinrent troubles, ses jambes et ses mains tremblèrent, et il fut obligé de s'asseoir pour continuer. Voici ce qu'il lut. « Mon cher Durand, si vous eussiez éparpillé directement dans les bureaux du ministère de la Maison du Régent les 150 et quelques 1000 livres desquels vous avez eu la galanterie de me créditer, ils auraient amplement suffi à faire obtenir à votre beau-père et à vous le cordon de Saint-Michel et l'échevinage. Vous avez préféré un meilleur placement et vous avez bien fait. En échange de vos fonds, je vous dois un bon conseil et je vais vous le donner. Défiez-vous désormais des hautes et puissantes dames qui se viendront loger en fine mercantilerie. Et surtout, ne cherchez ni moi, ni ma fille, ni mon intendant. Votre temps est précieux et vous le prodigueriez en courses et démarches inutiles. Je laisse à votre courtoisie bien connue le soin de m'acquitter envers mes gens. C'est vous qui me les avez procurés. Il est hors de doute que vous devez, en galant homme, les indemniser de leurs gages non perçus. Je vous autorise solennellement à vous défaire de l'écrin qui se trouve en nantissement dans votre caisse et à affecter au paiement de cette valetaille les sommes que vous en retirerez. Ces magnifiques diamants ont été généralement estimés, dans le commerce, 650 livres. Mais les commerçants sont des juifs, comme vous savez. Je ne doute point cependant qu'en vous y prenant bien, vous veniez à bout d'en tirer 25 louis. Adieu, mon cher Durand. Croyez que je suis tout à vous et considérez comme votre très humble servante, la comtesse de Saint-Anille. Quand Durand eut achevé sa lecture, il lâcha la lettre qui tomba à droite. Lui-même s'affaissa dans son fauteuil et tomba à gauche sur le parquet. Il venait d'avoir un coup de sang. Heureusement, il fut possible de le saigner à temps et il ne tarda pas à revenir à lui-même, ou du moins à sortir de son assoupissement apoplectique. Pendant une semaine entière, il vécut automatiquement, en quelque sorte, c'est-à-dire mangeant, buvant, dormant, mais ne pensant pas. Au bout de ce temps, la clarté se fit de nouveau dans son intelligence, jusque-là paralysée. Le premier moment où il se trouva face à face avec ses souvenirs fut terrible. Durand succombait sous le poids de la honte et du ridicule. En vérité, nous l'affirmons, ce qui le désespérait le plus, ce n'était point de s'être laissé voler 150 000 livres. Somme énorme. C'était d'avoir donné tête baissée dans les panneaux tendus par quelques intrigants. C'était d'avoir bâti tout un édifice d'illusions sur des promesses mensongères, d'avoir cru à des honneurs futurs, d'en avoir parlé, d'être ainsi devenu la fable et la risée de tous ses compères du quartier des Bourdonnais, dont il lui semblait entendre les gorges chaudes à propos du cordon de Saint-Michel et de l'échevinage. Et certes, pourtant, si quelque chose put excuser à ses propres yeux un homme pris au piège, c'est la prodigieuse habileté avec laquelle le piège avait été tendu. Durand n'était-il point excusable? Quel bourgeois se fût senti capable de lutter contre un trio de la force de mesdames de Saint-Anille et d'Agamemnon Riva, la perle sans contredit des intendants et des filous? Ceci ne suffit point à consoler Durand. Malgré la charitable recommandation formulée dans la lettre de la prétendue comtesse Douairière, il ne se tint point absolument pour battu. Il déposa sa plainte et mit en mouvement, pour son compte et à beaux écus comptants, tous les limiers de la police. Ceci lui coûta 6 à 7 000 livres, qui allèrent rejoindre les 150 000 si fortement aventurés. Toutes les recherches de la police restèrent infructueuses, et on ne put découvrir aucune trace de la comtesse Douairière, de mademoiselle Artémise, de Riva l'intendant, non plus que de monsieur Lehoux, exempt de la prévôté de l'hôtel. Durand, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le postillon qui conduisait le carrosse dans lequel l'exemple Lehoux emmenait ses prisonnières au château d'Hyères par Lyon et la route du Rhône reçut l'ordre de changer de direction quand il fut près d'atteindre la barrière de Charenton. L'exemple fit arrêter la voiture devant une maisonnette de fort humble apparence située à peu de distance de Paris. Là, tous nos personnages descendirent et entrèrent dans la maison. Une sacoche de cuir portée par Riva contenait en bon or 140 000 livres environ. C'était le produit de la vente des étoffes joint aux 60 000 livres destinés à payer le solde de la parure de diamants. L'argent fut étalé sur la table. Mademoiselle Artémise, comme ayant eu l'idée et dressé le plan de la gigantesque fourberie dont nous avons vu l'exécution, s'attribua sans conteste la plus belle part. Sur les 140 000 livres, elle en préleva 80 000. La Douairière, Riva et Lehoux se partagèrent les 60 autres. Ceci fait, la jolie fiancée du Grand d'Espagne remercia gracieusement ses associés. Elle embrassa, mais sans effusion, la comtesse Douairière, sa noble mère. Elle remonta en carrosse, mais cette fois absolument seule, et elle cria au postillon « Route d'Italie et double guide !» Les chevaux brûlèrent le pavé. L'histoire ne nous a pas transmis les véritables noms de messieurs Riva et Lehoux. Quant à la comtesse Douairière, nous l'avons connue jadis sous le nom de la mère Moloch. Mademoiselle Artémise de Saint-Anille n'était autre qu'Hébé, ou la fille du diable, ou Madame de la Tremblée. Pour commencer une nouvelle existence, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Maintenant, elle en avait. Nous la reverrons bientôt. Chapitre 14. Vieux habits, doublure neuve. Raoul de la Tremblée n'avait point une de ces natures qui se laissent indéfiniment abattre par un chagrin, quel qu'il soit. Nous savons qu'il avait triomphé sans trop de peine, avec l'aide d'Hébé, du désespoir par lequel il s'était vu écrasé lors de la mort de Déborah. Or, la douleur que lui causait l'infidélité et l'abandon de sa femme, quoique vive et cuisante, n'atteignait point l'intensité de ce premier chagrin dont nous venons de parler. L'amour-propre souffrait cruellement, mais la déchirure du cœur n'était pas profonde. En conséquence de ce qui précède, la guérison morale de Raoul ne tarda pas plus longtemps que sa guérison physique. Son cœur et son épaule se cicatrisèrent en même temps. De cette double blessure, il résulta seulement une faiblesse très passagère dans le bras droit et dans l'âme, une forte dose de désillusion et d'amertume. Au bout de quelques jours, la faiblesse du bras avait complètement disparu, mais l'amertume de l'âme subsista. Cette disposition avait tout naturellement ramené l'esprit du jeune homme vers des idées qui, jusqu'à la naissance de son amour pour Déborah, avaient été le principal but de sa vie. Nous voulons parler de cette éclatante vengeance qu'il se promettait d'exercer à l'endroit des trois héritiers collatéraux de Réginald de la Tremblay, par lesquels, nos lecteurs ne peuvent l'avoir oublié, il s'était vu dédaigneusement chassé du château de la Tremblay le jour même du repas des funérailles. Nul moment ne pouvait paraître mieux choisi pour entreprendre et mener à bien cette vengeance si longtemps différée. La réalisation d'un semblable projet allait mettre un élément d'intérêt dans la vie du jeune homme, vie que les derniers événements faisaient bien triste et bien isolée. En outre, il avait à sa disposition le choix de tous les moyens d'action, puisque l'or, ce suprême mobile, ne lui faisait point défaut. Aussitôt que la pensée que nous signalons se fut présentée à son esprit avec une force nouvelle, Raoul se sentit revivre et comprit que l'amour de la vengeance, aussi bien que celui du jeu, ne s'éteint jamais dans les cœurs dont il s'est une fois emparé. Il ne s'agissait plus que d'arrêter un plan dont l'exécution fut possible. Raoul se mit à y penser sans relâche. Nous ne tarderons point à connaître le résultat de ses méditations à ce sujet. Raoul de la Tremblay, encore couché, agita une petite clochette d'argent qui se trouvait à portée de sa main sur la table de nuit. Il était en ce moment 10 heures ou 10 heures et demie du matin. Un valet parut. « Jacques est-il à l'hôtel ?» demanda Raoul. « Oui, monsieur le chevalier. Envoyez-le ici sur le champ. » Le valet s'inclina et sortit. Au bout de quelques minutes, Jacques entra dans la chambre de son maître. « Jacques, lui dit Raoul, y a-t-il dans ce quartier quelques grands marchands fripiers ?»«
Oui, monsieur le chevalier. Il y en a un à l'enseigne du Vergalant, tout près d'ici, sous les piliers de la place royale. »
Te connaît-il ?
Oui, monsieur le chevalier.
Et comment cela ? Jacques eut l'air tant soit peu interdit. Il baissa la tête, rougit légèrement et ne répondit pas tout d'abord. Raoul recommença sa question.
Ce marchand ayant une très jolie nièce, dit enfin le jeune valet, non sans un modeste embarras, je suis entré une demi-douzaine de fois dans sa boutique.
Et ? Demanda Raoul en souriant. « Sait-il que tu es à mon service ?»«
Je le crois, monsieur le chevalier. »«
Alors, ce n'est pas chez lui qu'il faudra te rendre aujourd'hui. On trouverait la démarche singulière. »«
Il y en a un autre, monsieur le chevalier, à l'entrée de la rue Saint-Antoine. J'ai remarqué sa boutique en passant. »«
C'est notre affaire. Tu vas quitter ta livrée. »«
Oui, monsieur le chevalier.
Tu mettras des vêtements bourgeois. Tu dois en avoir. »
Jacques fit un signe affirmatif.
Raoul poursuivit. « Tu empaqueteras un de nos costumes complets, habits, vestes et culottes. »«
Lequel, monsieur le chevalier ?»«
Peu importe, le premier venu. »«
Ce sera fait. »«
Ce marchand prendra la mesure exacte de ce costume et t'en fournira un de la même grandeur. »«
De quelle sorte ?»«
Tout ce qu'il y aura au monde de plus simple. »« Quelque chose comme la défroque d'un pauvre diable de Basochien. »« Plus l'habit sera râpé, mieux cela vaudra. »
« Les habits râpés ne sont point chose rare, » répliqua le valet.
« Tu paieras au marchand, séance tenante, la moitié du prix convenu, et tu lui diras de faire mettre une doublure neuve à chacun de ses vêtements, sans perdre une minute. »«
Ce sera peut-être un peu long.
Il faut que tout cela soit prêt avant la nuit. »«
Parfaitement, monsieur le chevalier.
Tu iras chercher le costume à l'heure indiquée par le marchand, et tu l'apporteras ici, sans dire un seul mot à propos de tout ceci à tes camarades. »
« Monsieur le chevalier, c'est bien que je me ferais écarteler plutôt que de prononcer une parole indiscrète. »«
Je le crois, et j'y compte. Voici l'argent. »
Raoul prit 10 louis et les tendit à Jacques en lui disant
« Est-ce assez ?»«
C'est trop. » »«
Tant mieux. Le reste est pour toi. »
Jacques remercia et sortit. À 7 heures du soir, on gratta à la porte de Raoul.
« Entrez !» dit ce dernier.
Jacques ouvrit et se glissa dans la chambre. Il portait à la main un gros paquet enveloppé dans un carré d'étoffe brune.
« Ah, c'est toi !» fit Raoul.
« Oui, monsieur le chevalier.
Tu arrives de la rue Saint-Antoine ?»«
À l'instant. »«
As-tu ce qu'il me faut ?»«
Oui, monsieur le chevalier. »«
Voyons. »
Jack dénoua les quatre coins de l'enveloppe et il étala sur un fauteuil un habillement complet dont l'aspect seul fit sourire Raoul. C'était une culotte de drap noir, encore solide, mais élimée et luisante à l'endroit des genoux. La veste était d'un velours jadis noir, mais maintenant blanchie à chaque pli, aux boutonnières, aux coutures, et miroitée de façon notable. L'habit marron aux poches béantes offrait les mêmes symptômes de décrépitude. Il y avait en outre une paire de bas de coton, couleur poivre et sel, c'est-à-dire mélangée de gris et de blanc. Un petit chapeau lampion, veuf d'une bonne partie de son duvet, et de bons gros souliers carrés, tout neufs, à fortes semelles et à boucles de cuivre. Ainsi que l'avait demandé Raoul, les doublures de ces misérables ajustements étaient d'une irréprochable fraîcheur. On pouvait endosser toutes les pièces de ce costume sans contrevenir aux rigoureuses lois de la propreté. « À merveille !» s'écria Raoul. « Tout cela est choisi de main de maître. »« Monsieur le chevalier est content de moi ?» demanda Jacques, l'œil étincelant de joie. « Oui, mon garçon. Eh bien, j'aime mieux cela que sans Louis. » Raoul se mit à rire. « Combien t'a coûté cette défroque » fit-il. « 3 louis. »« Doublure comprise ?»« Oui, monsieur le chevalier. » »« Alors, il t'en reste 7. » »« Les voici, » fit Jacques en tirant de sa poche 7 pièces d'or qu'il posa sur la cheminée. « Que fais-tu donc ?»«
Dame, je rends à monsieur le chevalier ce qui lui appartient. »
« Tu ne te souviens donc pas que je t'ai dit que l'excédent du prix, s'il y en avait, serait pour toi ?»«
Oui, mais monsieur le chevalier croyait sans doute que le costume coûterait 8 ou 9 louis. »«
Où diable l'honnêteté va-t-elle se nicher ?» s'écria Raoul en riant. « Garde, mon garçon, garde tout !» Jacques, abasourdi d'une si invraisemblable largesse, ne se décida point sans peine à reprendre possession des pièces d'or. « Maintenant, dit monsieur de la Tremblay, habille-moi. » Jacques obéit silencieusement. Le costume élégant de Raoul fit place aux humbles vêtements sortis de la boutique du fripier. Quand la toilette fut achevée, Raoul posa sur sa tête le petit chapeau lampion, en ayant soin de l'incliner vers l'oreille droite un peu plus que de raison. Ensuite, il se regarda dans la glace. Sauf la trop grande distinction de son visage, il avait l'air d'un de ces charmants mauvais sujets de la petite bourgeoisie, qui s'efforçait d'imiter, quoique sans le sou, les vices luxueux de la noblesse, mettait à mal les jolies ravaudeuses et faisait mine de rosser le guet en sortant du cabaret. Raoul approcha de la flamme d'une bougie un bouchon de vin de champagne. Ensuite, avec l'extrémité de son doigt, il étendit au-dessous de ses paupières une légère couche de noir, laquelle imprima aussitôt à son visage je ne sais quel cachet de précoce flétrissure. À 2 reprises, il passa la main dans ses cheveux, afin de remédier à la trop grande correction de sa coiffure. Il enfonça son chapeau encore plus du côté droit, et se regardant de nouveau dans la glace, il sembla cette fois tout à fait content de son apparence. Ses préliminaires achevés, Raoul se tourna du côté de Jacques, qui, non sans surprise, le regardait faire. « Tu vas, lui dit-il, me donner la clé de la petite porte du jardin. » Et t'assurer qu'aucun des valets ne se trouvera sur mon passage. Je ne veux pas qu'on me rencontre.
« Monsieur le chevalier sort ?» demanda Jacques.
« Oui.
Sans souper ?»«
Je souperai dehors. »«
Accompagnerai-je monsieur le chevalier ?»«
Non. »«
Si monsieur le chevalier daignait me permettre... »«
Quoi ?»«
De lui dire... »«
Parle !»«
Eh bien, j'ai peur. »«
Tu as peur ?»
« Oui, je sais très bien que monsieur le chevalier s'est déguisé pour aller courir les aventures. »«
Et quand cela serait ?»«
Paris est si dangereux la nuit. Qui sait s'il n'arrivera pas quelque chose à monsieur le chevalier ?»«
Sois sans inquiétude, mon garçon. »«
Dame, c'est plus fort que moi. Je tremble. »«
Et c'est pour cela que tu voudrais me suivre ?»«
Oui, monsieur le chevalier. Au moins, en cas d'accident, de mauvaise rencontre, de querelle, je serai là. »
« C'est impossible, mon pauvre Jacques, mais je serai prudent, et d'ailleurs bien armé. Tiens, tu vois, je prends 2 petits pistolets et ce stylet. Ce sont de vaillants compagnons. »«
Au moins, monsieur le chevalier me permettra de l'attendre ?»«
Ah, quant à cela, bien volontiers, mais je ne rentrerai peut-être qu'au milieu de la nuit. »«
Raison de plus. »«
Alors, fais un bon feu dans cette chambre, et dors dans un fauteuil. »
jusqu'à ce que monsieur le chevalier soit rentré, je sens bien que je ne pourrai pas fermer l'œil. » Puis, sans ajouter un mot à cette réplique naïve et sincère, Jacques sortit pour aller chercher la clé de la petite porte du jardin. Pendant son absence, Raoul ouvrit un meuble en bois de rose qui lui servait de coffre-fort. Il prit une poignée d'or qu'il coula dans la poche avachie de sa veste de velours. Ensuite, recevant des mains de Jacques la clé que ce dernier lui apportait, avec l'assurance qu'aucun des domestiques de la maison ne se trouverait sur son passage, il fit au jeune valet de chambre un signe affectueux, et il gagna le jardin, puis la ruelle.
Chapitre 15. Un cabaret du quartier des Halles. Raoul se rendit d'abord, afin d'y souper, à une taverne dont nous avons parlé déjà bien souvent, le cabaret du Chariot d'or. Après un repas long et confortable dont il solda l'addition avec 2 pièces d'or, au grand étonnement de l'hôte, qui ne s'expliquait guère comment un jeune homme si piteusement accoutré pouvait se permettre une pareille dépense, Raoul se dirigea vers le quartier des Halles. Si nos lecteurs ont bonne mémoire, ils doivent se souvenir que nous leur avons parlé jadis d'un cabaret situé non loin de la pointe Saint-Eustache, cabaret fort mal en renom et dont presque tous les hôtes étaient plus ou moins connus des agents de monsieur le lieutenant de police. L'enseigne trompeuse de ce cabaret, disions-nous, sentait d'une lieue sa mythologie galante. Cette enseigne portait en grosses lettres multicolores les mots suivants « À l'union de Mars et de Vénus ». Une porte étroite et basse donnait accès dans l'intérieur de l'établissement. C'est là que, quelques années plus tard, Raoul devait venir demander à une sorte d'espion subalterne, Mathias Aubert, surnommé le Lynx, des renseignements sur Antonia Verdi, la belle magicienne venue d'Italie et si avant dans la faveur de Philippe d'Orléans, régent de France, à qui elle faisait voir le diable sous sa forme réelle et palpable. Là, disions-nous encore, tout semblait hideux et sinistre, les choses aussi bien que les gens. Là, on ne voyait que des visages de mauvais augure, des physionomies farouches ou empreintes d'une brutale gaieté. Les rauques accents d'un langage inconnu y frappaient l'oreille presque constamment, avec les refrains de chansons, souvent obscènes, à tel point qu'on aurait eu honte en les écoutant d'en comprendre le sens. Ce n'était à proprement parler ni un cabaret ni une taverne, c'était un repère. On y buvait guère autre chose que de l'alcool, en fumant, à l'imitation des Hollandais, des pipes en terre blanche à longs tuyaux. Certes, pour se décider à franchir le seuil de cette abominable bouge, il fallait que Raoul fût poussé par quelque motif bien puissant. Ce motif existait, nous n'en pouvons douter. Car après s'être assuré en regardant l'enseigne à la lueur pâle d'un réverbère placé à quelque distance et balancé par le vent, après s'être assuré, disions-nous, qu'il ne se trompait point, il entra sans hésiter. Les vêtements de Raoul étaient, nous le savons, plus que simples. Il avait eu soin, d'ailleurs, d'ajouter au débraillé de son costume, en faisant passer quelques plis de sa chemise entre sa veste et la ceinture de sa culotte, et en fripant son jabot outre mesure. Son entrée n'attira donc nullement sur lui l'attention des habitués. La taverne se composait d'une seule et vaste salle dont le plafond noirci était soutenu de distance en distance par des poteaux de bois brut. Les tables et les bancs, en chêne à peine équarris, se trouvaient scellés dans le sol que recouvraient de larges dalles, toutes disjointes et de la plus révoltante malpropreté. Raoul alla s'asseoir dans un coin de façon à s'isoler autant que possible et à voir cependant tout ce qui se passait autour de lui. L'hôte, petit boiteux, haut de 4 pieds à peine, mais large et trapu comme l'Hercule Farnèse, s'approcha du nouveau venu et lui dit d'un ton bourru. « Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Une pipe, du tabac, une mesure d'eau-de-vie, » répondit laconiquement Raoul.
Le boiteux s'éloigna et revint au bout d'un moment avec les objets demandés qu'il posa devant Raoul. Ce dernier avançait la main pour les prendre, mais l'hôte l'arrêta par un geste brusque. Et comme le regard surpris de Raoul semblait demander l'explication de ce geste, le boiteux grommela de sa voix rauque et brutale.
Ici, pas de crédit. On paie d'avance. »
Raoul tira de sa poche une pièce d'or.
« Paie-toi, » dit-il en la jetant sur la table. Le boiteux ramassa la pièce, l'examina longuement, essaya de la plier entre ses doigts, la mit dans sa bouche afin de l'éprouver avec ses dents, la laissa tomber sur les dalles pour en écouter le son, etc., etc. Raoul assista sans sourciller à ce long et minutieux examen. Enfin, le boiteux parut convaincu que la pièce d'or valait bien réellement 24 livres. Sa considération pour M. de la Tremblay prit aussitôt des proportions invraisemblables. Il souleva, chose inouïe, son bonnet de coton graisseux, et il dit, d'un ton qui pouvait passer pour ne point être absolument impoli, « Je vais vous rapporter votre monnaie, et si vous voulez autre chose, vous n'avez qu'à parler. J'ai du véritable genièvre de Hollande, j'ai du vieux Kirschwasser, de la forêt noire, et du rack, première qualité. Du moment où vous pouvez payer, vous pouvez consommer. Je n'ai besoin que de ce que j'ai demandé, » répliqua Raoul en bourrant sa pipe. « À votre aise. Ici, on ne fait pas de crédit, mais on ne force personne à dépenser plus que sa volonté. »
Et l'hôte s'en alla, en boitant, chercher la monnaie qu'il ne tarda point à apporter. Il pouvait y avoir en ce moment une 40aine de personnes dans la taverne. 3 lampes de cuivre, placées à une assez grande distance les unes des autres, ne répandaient qu'une clarté douteuse et incertaine, obscurcie encore par les flots de vapeur blanchâtre qui s'échappaient des lèvres et des pipes des fumeurs. À travers cette obscurité et ce nuage, M. de la Tremblay eut peine d'abord à distinguer les visages de ses compagnons. Mais peu à peu, son regard se familiarisa avec ces demi-ténèbres et parvint à percer cette brume opaque. Il vit alors une collection de figures, d'attitudes et de costumes dignes de trouver place dans ces immortels dessins créés par le génie de Callot et reproduits par son âpre et vigoureux burin. C'étaient des visages osseux, livides, grimaçants, des nez d'oiseaux de proie, des lèvres de vampires, de jeunes fronts plus sillonnés de rides que le crâne d'un vieillard. C'étaient de grands corps dégingandés, dont la maigreur famélique se dissimulait mal dans des vêtements 3 fois trop larges. Toutes les expressions se retrouvaient dans ces yeux caves, profondément enchâssés dans des arcades sourcilières sombres et charbonnées, ou à fleur de tête, ainsi que les yeux de la chouette et du hibou. Les uns disaient la hardiesse querelleuse et fanfaronne, d'autres la lâcheté couarde et honteuse. Certaines physionomies pillardes s'accordaient bien avec des visages qui ressemblaient à des museaux de renard. Quelques bouches, meublées de dents pointues et écartées, avaient un air de famille avec le museau carnassier du loup. La plupart de ces honorables compagnons affectaient des allures soldatesques et portaient de longues rapières. Cette 40aine d'individus semblait offrir le type de chacun des vices les plus honteux qui déshonorent la pauvre race humaine. Les uns, complètement ivres, tombaient à demi des bancs de bois sur lesquels ils étaient assis. D'autres caressaient bruyamment et avec un laisser-aller ultra-cynique de misérables créatures, descendues au dernier degré du plus fangeux avilissement. D'autres, enfin, jouaient ensemble, soit aux cartes, soit aux dés, avec des cartes si grasses qu'on n'en distinguait plus les figures, ou avec des dés vraisemblablement pipés. Il y avait des moments de silence presque absolu, coupés soudain par de bruyantes clameurs. Raoul sentait son cœur se soulever de dégoût, et il se demandait s'il aurait la force et le courage de rester longtemps dans cet infâme pandémonium. Peut-être allait-il prendre le parti d'une retraite immédiate, quand survint une circonstance qui le détermina à rester à sa place encore un instant. Quelle était cette circonstance? C'est ce que nous allons apprendre à nos lecteurs dans le courant du prochain chapitre.